Vous écoutez Radio Sud, la radio du Beau Canton.
Installé dans la cantine et c'est l'heure où ça mange, donc vous entendrez sans doute des bruits de fourchettes, d'assiettes, de cuillères et autres, voire même d'invités qui mangent, parce que oui, parmi nos invités, il y a des gens qui travaillent, beaucoup de personnes qui travaillent. Vous avez entendu des témoignages d'artistes, des témoignages aussi de personnes qui ont construit le festival, de l'équipe des monteurs-monteuses qui font partie des bénévoles du service civil international, des jeunes qui sont venus prêter main forte. Des bénévoles, il en faut beaucoup. On est avec nous Mathilde qui a sa mini pause repas. Bienvenue à toi.
Bonjour.
Bonjour Mathilde, en full spaghetti, mode végétarien ou pas?
Non, j'ai une tête de végétarienne, mais je ne suis pas végétarienne.
D'accord, ok. Bah oui, il y a plusieurs teams. C'est vrai que les cantines s'adaptent. Hein. Moi, je viens avec le mode sans gluten, sans lacto. Je suis clairement la fille qui fait chier. Et toi, je t'ai vu tantôt présenter une scène, c'était mon premier spectacle, et on s'est dit avec les personnes avec qui on était, une présentation simple et pas problématique. Parce qu'à Chigny, on a un passif avec les présenteurs, présenteuses de scène. C'est un exercice pas simple, et tout le monde essaye d'en faire beaucoup, voire trop bien, voire trop, et souvent ça plombe. Avant même le début du spectacle, tu te dis « Oh no, on est tombé sur un travers qui est censé nous réunir et qui nous trigger à mort. » Et du coup, quand t'es venu en disant simplement les choses, en posant les noms, en disant merci, au revoir, à tantôt, ça nous a fait un bien fou. Donc on voulait te remercier pour ça déjà, pour ta venue dans ce festival, apporter un truc nouveau, dire « J'ai pas la prétention de vous présenter quelqu'un ou quelque chose que je ne connais pas, juste bienvenue, pensez à ceci, pensez à cela, je suis là pour vous accueillir, tout va bien se passer, on se retrouve après. » Merci Mathilde.
Tant mieux si c'est chouette.
Ouais, mais ta fonction officielle, c'est quoi dans le festival ?
C'est ça. Aujourd'hui, demain c'est différent, mais aujourd'hui, c'est je présente les spectacles.
Voilà. Ouais.
Et donc, j'aide aussi un peu à l'accueil du public, à dire vous pouvez vous asseoir là, vous pouvez vous asseoir là. J'aide comme je peux, j'essaye d'avoir l'esprit d'initiative.
Ouais.
Mais j'ai jamais fait ça de ma vie en fait. Moi d'habitude je suis de l'autre côté. D'habitude je suis artiste et donc j'aime bien l'idée de soudainement avoir le rôle de ceux qui nous accueillent.
Mmh.
Parce que j'ai l'impression que la culture en général et l'art en général, ce n'est que du travail d'équipe et du ensemble. Et le fait de pouvoir endosser des casquettes différentes au long de sa vie, qu'on soit bénévole ou qu'on travaille ou quoi. Si moi je suis bénévole. Dans d'autres cas, c'est mon travail. Mais ici, le fait d'avoir comme travail bénévole ce que je ne fais pas d'habitude, je sais que ça va nourrir mon travail d'artiste parce que je vais mieux comprendre les enjeux, je vais mieux comprendre le stress, je vais mieux comprendre pourquoi on vient me trouver une demi-heure avant et pas à des moments que moi j'avais choisi. Parce que, évidemment, que j'ai toujours voulu correspondre aux demandes, enfin, de répondre aux demandes plus que d'y correspondre, d'y répondre comme je pouvais. Mais sans avoir la conscience du terrain, que j'ai pas tout à fait aujourd'hui, hein, parce que je suis bénévole, je débarque, c'est la première fois que je fais ça, j'ai pas la prétention de savoir ce métier, mais en tout cas je sens et je palpe quelque chose que j'ai jamais palpé et ça nourrit d'office.
Mmh, mmh. Bah du coup on l'a senti, tu vois, je t'ai invité en me disant tiens, autre chose qu'une rencontre artistique, et en fait non. Les gens qui savent, enfin, je veux dire, c'est pas pour rien. Je pense que tu as eu cette justesse dans ta présentation. C'est qu'il y a un endroit où t'es concerné aussi sur la pratique artistique. Et tu sais que au moins on en fait, au plus c'est chouette, au moins ça se reste les personnes qui arrivent. Et au plus cet espace, c'est leur et pas le tien.
Pour avoir fait des spectacles où il y a eu des... Parce que parfois, les artistes présentent eux-mêmes. Et donc, moi, il y a eu des spectacles que j'ai mis en scène, enfin, un spectacle que j'ai mis en scène où il m'est arrivé de le présenter moi-même.
Mm.
Et donc j'ai dû faire preuve de synthèse, qui n'est pas un exercice facile pour moi à l'origine. Donc il y a déjà cette histoire-là. Donc ça j'ai déjà fait, mais ça n'a rien à voir quand c'est son propre spectacle et quand c'est le spectacle de quelqu'un d'autre. Parce que quand c'est son propre spectacle, on le connaît par cœur. Tous les spectacles que je présente aujourd'hui sont des spectacles que je n'avais jamais vus. Et donc... Quand je travaille en tant que metteuse en scène ou porteuse de projet aux comédiennes et que je délègue la prise en charge du petit mot, il est très important pour moi de pouvoir discuter pendant 5 minutes avec la personne qui va pouvoir présenter. Donc moi, il m'était crucial et capital de pouvoir rencontrer les artistes avant. Et donc, c'est ce que j'avais demandé à la directrice qui m'avait contactée pour pouvoir être bénévole sur le festival. Mmh. C'est comme ça qu'il y a deux artistes qui m'ont téléphoné hier pour que je puisse déjà savoir quels étaient les mots-clés à dire. Et les deux autres spectacles, je me suis arrangée pour arriver à l'avance, me faire un peu discrète, mais dire voilà, je me présentais rapidement, dire que j'allais faire le petit mot et demander ce qui était possible. Il y a eu une hésitation parce qu'il y a eu une artiste qui ne savait pas si elle avait envie ou pas d'avoir un petit mot. Et pour moi, c'est tout à fait légitime d'avoir un petit mot, tout comme ne pas en avoir, en fait, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire passer des choses autres que le titre, qui est de toute façon dans le programme. Et elle a pris la décision qu'il y ait un petit mot pour dire d'éteindre le téléphone. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est simple, en fait. Hein. C'est juste, je dis quoi, ouais. Essayer d'être synthétique, avoir des mots-clés et pas des phrases toutes faites, parce que si on a des phrases toutes faites, soit on les apprend par cœur, mais bon, voilà, soit on doit les lire et alors on n'est pas en regard avec le public.
Voilà. Ça a l'air simple pour toi, mais je t'assure, pour avoir vu énormément de personnes qui font cet exercice, que ne pas être là et se sentir obligé de parler de soi, que d'être à l'écoute de ce que les artistes sont demandés, que savoir se dire que less is more, enfin que parfois moins on en fait, mieux c'est pas donné à tout le monde. Je pense que c'est une vraie posture que t'as comprise et que que je t'ai vu assurer avec. Avec brio.
Non, j'ai pas tout géré. Voilà. J'ai pas tout géré. Par exemple, j'ai oublié, alors que c'était bien dans ma tête, j'ai tout à fait oublié de préciser pour un des spectacles qu'il y avait une traduction en langue des signes. J'ai complètement oublié.
Mais ça s'est vu assez vite, je pense.
Certes. Mais enfin, elle m'avait demandé de le préciser.
Et de la nommer, de nommer l'artiste qui signait.
Non, elle m'a juste dit, est-ce que c'est possible de juste dire que je vais faire la traduction en langue des signes. Et je l'avais bien en tête, je l'ai répété, etc., dans ma tête, comme ça, 30 secondes, et j'ai complètement oublié.
Et ben voilà. Comme quoi, en apprentissage.
Oui, c'est ça. Et ça met aussi un peu de tendresse et de compréhension pour le jour où je vais de nouveau me retrouver dans mon métier. Avoir quelqu'un qui a oublié un mot crucial et de me dire oui, bah, c'est normal. Enfin,
c'est pas leur boulot, ils sont pas là pour ça, c'est le mien, je vais récupérer les choses. Ouais. Vas-y, prends une petite bouchée de ce super spag. J'en profite pour dire voilà, que tu fais partie d'une équipe. Il y a de nombreuses personnes qui œuvrent en cuisine, des personnes qui sont là à l'année, des personnes qui sont là bénévoles. Il y a énormément de personnes qui travaillent sur ce festival pour le faire vivre et assurer un régime alimentaire particulier, notamment. Et puis hors antenne, tantôt, tu disais à Nathan, notre technicien, est-ce que t'es pas diesel ? J'ai envie de te retourner la question. Toi, t'es d'ici aussi ?
Oui, moi, j'ai grandi dans ce village. Ma maman, elle habite ici.
Ok.
Donc, quand je vais remplir ma gourde, je vais nourrir les chiens en même temps. Et c'est un peu drôle.
Ouais. Et du coup, t'es du village, tu bosses ici, t'es jamais venue ici comme bénévole et pourtant t'as un parcours artistique, tu dis que tu fais de la mise en scène, t'es porteuse de projet, enfin, t'as déjà un pied dans l'artistique et t'as pas eu l'appel de participer au festival de ton village. Gros dossier ?
Mais non, c'est pas un gros dossier. Donc déjà moi je suis pas dans le compte, je suis pas conteuse. Donc voilà. Petite anecdote. Quand j'avais 10 ans, j'ai raconté des histoires que j'écrivais dans un jardin d'une amie de ma mère qui habitait Chigny lors du Festival du Conte. Donc c'était tout à fait hors programme, c'était le off. Voilà, j'ai fait le off à 10 ans.
Donc c'était combien de temps pour ceux qui ne voient pas l'âge que tu as ?
C'était il y a 18 ans.
Ok. Et t'es sûre que personne s'en souvient ?
Ah, ma maman, elle s'en souvient.
Et elle l'a dit à tout le village ?
Non, parce que non.
Est-ce qu'elle
l'a
dit à Marc-Alexandre ?
Je pense que Marc doit être au courant, bien sûr.
Tout le monde le sait, c'était dans les archives.
Voilà. Donc il y a cette petite expérience-là.
Ouais.
Une autre petite expérience où j'avais vendu des bijoux que j'avais faits, mais jamais pas faire des bijoux. En fait, j'ai toujours aimé faire des personnages en fimo.
Ouais.
Mais j'avais pas fait, parce que les personnages ça prend 3 jours, donc j'avais fait des bijoux et j'avais essayé de les vendre, enfin ça n'avait pas trop pris. Il y a eu ça. Et puis, alors ça c'est un peu un truc quand même, mais je pense que c'est important de le dire. J'ai fait l'affiche du Festival du Conte 2020. Et le Festival du Conte en 2020 a été annulé parce que c'était le Covid. Mmh. Et même plus que le Covid, c'était le confinement. Tout parce que fait. C'est pas pareil.
Et tu sais ce qu'il y a eu à la place du festival ?
Un festival radiophonique.
Tout à fait.
Et ils ont fait quoi ? Une autre affiche pour le festival radiophonique. Ce qui fait que mon affiche est tombée complètement dans l'oubli. Et il y a toutes les affiches du festival. Eh bien, mon affiche n'y va pas. Donc j'ai travaillé pour rien. Et donc là, je vais essayer de voir si c'est pas possible de refaire une affiche pour une autre année, parce que je trouve que c'est quand même vraiment dommage de pas avoir eu cette visibilité là pour mon travail. Et puis donc voilà, je vais sans doute proposer quelque chose.
Donc tu fais de l'artisanat, du théâtre, tu es porteuse de projet, tu fais des arts plastiques et tu fais des affiches. J'ai oublié un truc, tu fais la musique ou quoi?
Non, je fais pas de musique.
Mince.
Je fais pas de musique. Non. Après, l'artisanat, non, ça c'était. J'avais
12-13
ans. Les bijoux, c'est vraiment pas mon délire. Donc, j'ai essayé. Voilà. Mais c'est vraiment pas mon délire. Je crois que ça l'était déjà pas. C'est pour ça que j'arrivais pas à les vendre. Voilà. C'était vraiment fabriquer des personnages. Donc, moi, je dis que je suis artiste. J'aime bien parce que c'est un mot un peu fleuve, comme ça, on sait pas trop ce que c'est. J'aime bien quand on sait pas trop définir. Ça me parle pas mal. Et alors, les gens sont très curieux. Oui, tu es artiste, mais alors, qui es-tu ? Et alors, je dis en général que je travaille dans le théâtre, parce que c'est mon domaine de prédilection. Je suis comédienne de formation. Et dans le théâtre, il y a trois casquettes que j'endosse fréquemment. C'est metteuse en scène, comédienne, marionnettiste. Et je m'adresse majoritairement au public adolescent, mais aussi au jeune public, voilà, et ça percole sur les adultes. Et j'hybride ma pratique artistique à la pratique philosophique. J'ai fait le certificat en pratique philo, et donc j'utilise les outils de pratique philo pour créer. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le questionnement chez les gens que je rencontre, donc en priorité les ados, pour nourrir la création, pour que ça leur parle. Et donc, dans tout le processus de création, j'intègre les réflexions philosophiques autour des thématiques que j'aborde dans les spectacles. Et ma compagnie, comme ça je fais de la pub, s'appelle La Petite Mouche. Et je suis actuellement en création sur un spectacle qui s'appelle Madame André et qui parle du lien humain.
Du lien humain au sens large ?
Du lien humain au sens large, oui. Donc, c'est l'histoire. En fait,
c'est exponentiel.
C'est exponentiel. Donc, c'est assez arborescent comme spectacle. Même s'il y a une histoire très concrète, fictionnelle, parce que je ne fais que de la fiction. Dans ce monde qui ne veut faire que du témoignage, j'essaye de ramener de la fiction parce que je pense que c'est très important.
Il n'y aura pas de récit de vie ?
Non, jamais. Enfin, après, la vie étant un mouvement perpétuel, je ne sais pas ce qui peut arriver. Mais non, pour moi, c'est un peu un combat de rester dans la fiction, vraiment. Je pense que c'est très, très important de se décentrer, se décentrer et écouter les autres. Je pense que c'est très, très important. Et la fiction permet de se décentrer.
T'as un contre-pied générationnel hein, en disant ça, de sortir du récit de vie, du récit individuel pour aller se décentrer. Tu sais que c'est un discours de boomer presque.
Ah mais je m'en fiche en fait d'être. Moi j'ai pas envie. Je suis pas ok déjà. Je suis pas quelqu'un d'ok. J'essaye d'inclure tout le monde, y compris les gens pas ok. C'est vraiment très important et je pense que tout le monde fait. Enfin, il y a pas des gens qui. C'est impossible de dire qu'il y a des gens qui sont ok, des gens qui sont pas ok. En fait, on a tous en soi des choses bien, mal. Enfin, c'est une espèce d'hybride et on fait ce qu'on peut. On fait de son mieux. Et donc moi, j'ai absolument pas la prétention de dire que je fais des choses que je suis parfaite. Ou non, j'ai une vraie part de monstruosité en moi et je pense que c'est important de voir sa part de monstruosité pour pouvoir essayer de dialoguer avec elle et faire au mieux. Mais je vais blesser des gens, en fait. Je vais être maladroite. Je vais faire des choses qu'il faut pas. Je vais manquer d'écoute. Enfin, voilà. Je suis là, ça s'entend. Je suis en train de parler.
Je te trigger à fond en traitant de boomer.
Hein ?
Je te trigger.
Non, pas du tout. J'aime bien, en fait. Ça me fait un peu rire parce que je sais que je suis pas ok. Donc, d'ailleurs, j'ai un spectacle qui s'appelle C'est ok et qui parle de tout ça, qui parle du clivage, de tous les clivages qui existent. Et qui où en fait on reste dans des petits cercles où on influencé aussi par le virtuel, le numérique, les bulles algorithmiques, où finalement on va se monter le bourrichon sans véritablement prendre le temps de se confronter à l'altérité de l'autre et de se rencontrer avec ça. C'est pas parce qu'on se rencontre qu'on est obligé d'être d'accord avec l'autre. On peut rester avec son avis, mais écouter et voir ce que ça change en soi. Et je pense qu'à partir du moment où on accepte l'autre, qu'on le considère comme un vrai humain, quand bien même on n'est vraiment pas d'accord avec lui, il y a une relation qui peut s'établir. Et ça, le lien humain peut... moi, je pense vraiment que le lien humain peut changer le monde. Mmh. Et pour ça, il faut pouvoir se décentrer. Mmh.
Donc ça, c'est son projet. Bah, là, c'est ton vœu pieux à toi, mais t'as un projet autour de ça.
Donc, c'est ça. J'ai un projet qui s'appelle C'est OK et qui est un projet de 30 minutes dans lequel je joue et je suis marionnettiste et qui parle des clivages et dogmatismes avec humour. Oui, c'est ça, avec humour et marionnette. Et j'ai un autre projet qui parle donc du lien humain. Et donc, c'est un peu... Ils se répondent par ce feu que je sens en moi d'avoir envie de réunir les gens quand bien même on n'est pas d'accord. Ça, c'est vraiment très important. Je pense d'ailleurs que le désaccord est un cadeau parce que quand on n'est pas d'accord, on peut se questionner et on peut aller plus loin. Et voilà.
Ne pas fuir le conflit.
Pas fuir le conflit, non.
La richesse du conflit.
C'est ça, exactement.
Et sur ce projet-là, c'est étiqueté, s'il en faut, théâtral et marionnette, ou dans quel registre?
C'est OK.
C'est okay. Le suivant qui viendra sur le lien humain.
Madame André?
Ouais.
Alors, Madame André, c'est vraiment mon projet principal. C'est OK, c'est un projet en plus qui m'est arrivé un peu par hasard.
Méfie-toi de ce genre de projet qui finalement constitue toute ta vie plus tard. Peut-être on en reparle dans 10 ans.
Oui, bah, je suis contente de l'avoir, vraiment. Je suis très, très heureuse qu'il soit arrivé dans ma vie, mais c'est le hasard qui l'a mis là. C'est moi qui l'ai choisi. Hein. Ce n'est pas un projet qu'on m'a dit, fais-le. Non, non. C'est un projet que j'ai choisi avec tout mon cœur, mais je ne l'ai pas choisi dans un processus de réflexion sur du long terme, comme Madame André, où vraiment ça fait depuis 2020 que j'ai fait une fiction sonore qui s'appelle Madame André, qui se trouve sur radiola.be. Et donc c'est l'histoire de Madame André, qui est une vieille dame qui devient transparente à force de ne pas être touchée. Et à partir de 2024, je dirais 2023-2024, j'ai décidé d'en faire un spectacle. Mais c'est pas le spectacle de l'histoire. C'est pas j'adapte un truc dans une autre forme artistique parce que c'est une histoire totalement différente, mais qui prend tout à fait appui sur ça. C'est-à-dire que là, c'est l'histoire d'Otman. Otman, c'est un ado de 14 ans qui est le voisin de Madame André et qui, une fois que Madame André est devenue totalement transparente et morte, vient faire de l'urbex dans cette maison. Et il rencontre Fanette, la plante verte de Madame André. Et Fanette, qui a muté parce que la mort de Madame André l'a profondément touchée, bouleversée, donc elle a muté, est dotée du don de la parole et du mouvement. Mais puisque ce n'est pas un être humain, eh bien, elle pose plein de questions complètement random. Et elle se lie d'amitié avec Otman. Et ensemble, ils se questionnent sur les relations parce qu'ils sont un peu à l'enquête de pourquoi Madame André a disparu. Oui, parce qu'elle n'a pas été touchée, mais pourquoi? Et donc, évidemment que la réponse est protéiforme parce qu'on ne peut pas dire c'est la faute de telle personne. Non, non, c'est tout un environnement. Il y a une approche systémique qui est donnée à voir dans le spectacle. Et lui, ça, cette recherche-là, le fait réfléchir sur ses propres liens humains avec sa mère, mais aussi avec son meilleur ami Léo, pour qui il a l'impression d'être figé dans un rôle avec un masque social, et ça c'est représenté par un demi-masque qu'il porte de lui-même. Donc il y a tout un jeu de masque avec lui, et aussi ça ouvre avec toutes les questions et le rapport à la mort, à la vie, au deuil, à la tristesse, aux différentes émotions que soulève cette transparence de Madame André.
Et la vieillesse aussi. À la vieillesse aussi.
Et à la vieillesse aussi, ce qui fait un pont intergénérationnel aussi.
Eh bien, fameux projet, elle dure combien de temps cette création sonore?
La création sonore dure 53 minutes.
Ouais.
Et le spectacle est en création actuellement avec Otman. Il y a les différents lieux du jeune public qui soutiennent. Mais alors, petit appel, je cherche de l'argent pour pouvoir payer mon équipe.
artistique. Sans argent, je n'arriverai pas à travailler. Ce projet est crucial, vital. Donc, si vous avez envie de faire un don, c'est possible. Voilà.
Au moment des impôts, on sait que les dons sont déductibles et que parfois, on a tellement trop qu'en donnant un peu, on paye un peu moins.
Voilà.
Et on participe à un vrai projet de société.
C'est ça, c'est ça. Qui sera drôle aussi, en plus. Glauque, si on aime le glauque. Voilà. Avec une esthétique forte.
Et avec du lien humain.
Avec du lien humain. Parce qu'il y a, puisqu'il y a aussi toute la recherche de pratiques philo, où on peut être en désaccord d'ailleurs, hein, puisque le désaccord est un cadeau. Il y a aussi je travaille avec Philocité, qui est une ASBL de pratiques philo, qui collabore vraiment activement dans le spectacle. Et donc il va y avoir des ateliers philo, il va y avoir des échanges d'après spectacle, vraiment pour que ce soit le spectacle, c'est pas juste une œuvre, c'est un support pour qu'après on puisse discuter aussi.
Ouais, c'est marrant, tu parlais de 2020, de cette époque du Covid, et on s'est fort intéressé à l'isolement des personnes âgées pendant le Covid, et puis là j'ai l'impression que c'est passé complètement à la trappe. Au point que, par exemple, moi j'étais chez le kiné cette semaine et il y a une personne de 85 ans qui arrive, qui a l'air fringant mais qui fait quand même ses 85 ans et qui dit « Ah tiens, il y a quelqu'un qui est venu chez moi sonner pour m'offrir une bouteille d'eau » et je me suis dit « Ça va, je vais bien, merci de penser à moi » mais c'était un peu étrange et il se sentait presque pas concerné parce qu'il se sentait très privilégié, il allait bien, il avait la clim chez lui et il était effectivement 85 ans mais il osait à peine le dire. Il était tout à fait en forme, il avait juste un petit problème de pied, c'est pour ça qu'il était chez le kiné. Et là-dessus, le kiné lui répond « Mais que fait la ville et le CPS à mettre de l'argent dans des trucs pareils, aller sonner chez des gens avec une bouteille d'eau ?» Je veux dire, ils ont le robinet. Et ils ne comprenaient pas l'intérêt de recréer du lien avec des personnes âgées, peut-être isolées, de sonner chez des gens, de voir est-ce qu'ils et elles vont bien, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose, et que cette bouteille d'eau n'était qu'un prétexte à faire du lien humain, à demander aux gens comment ils et elles se portent, à peut-être les inviter à boire s'ils ont oublié de le faire parce qu'il y a des gens qui oublient de boire et ça concerne pas que les personnes âgées, c'est aussi les personnes sous traitement, les personnes autistes, les personnes qui ne se rendent pas compte qu'il faut boire. Et donc j'étais assez affolée d'avoir ce genre de discussion. Je me dis tiens, mais c'est vrai qu'on y a fort pensé pendant le Covid et puis depuis, bah bouf, on a réoublié que dans les fragiles, il y avait aussi ça. Et du coup, ton projet vient rappeler un petit peu à tout ça à travers... cette histoire, Madame André. En tout cas, chez moi, ça vient taper à cet endroit-là.
Ben, ça vient taper à cet endroit-là, mais ça vient aussi taper sur le fait que l'isolement, c'est quelque chose d'intergénérationnel. Tout le monde se sent seul, en fait. C'est très fort. D'autant plus parce qu'il y a des clivages, d'autant plus parce qu'il y a... Il y a le numérique qui... enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que... L'individualisme aussi de la société. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que... moi, par exemple, j'ai pas de smartphone.
Ouais.
C'est un choix.
Ouais.
Et si j'ai ce choix-là, je pense que la raison... Enfin, il y a la raison écologique qui est très forte chez moi, mais la raison principale, c'est la raison du lien. Parce que quand je suis perdue dans la rue, je vais demander mon chemin à quelqu'un. Alors certes, la personne va en général regarder sur Google Maps, mais au moins, je m'adresse à cette personne. Et en fait, le lien humain, je pense vraiment que c'est de la pratique. Et donc, quand on n'a pas d'échange avec quelqu'un, on va avoir de plus en plus peur de parler, on va se recentrer sur soi-même. En plus, avec le développement personnel, il y a un peu ce truc de « il faut respirer, il faut prendre soin de soi ». Le mauvais développement personnel. Il faut prendre soin de soi, il faut s'éloigner des relations toxiques, mais à force, on n'a plus de relations du tout. Et donc, c'est comment franchir... comment avoir un socle de sécurité. Ce socle de sécurité, c'est les relations, c'est les amis, c'est avoir un toit, c'est avoir à manger, c'est se sentir en confiance, c'est avoir un système social construit, c'est avoir accès au chômage, c'est avoir accès aux soins de santé psychologiques, c'est avoir accès à la culture. Tout ça, tout cet environnement-là que notre gouvernement est en train de tuer, eh bien, tout ça... participe au fait qu'on a un socle solide normalement pour pouvoir ensuite aller vers l'autre. Et aller vers l'autre, c'est se sentir moins seul. Et donc voilà, moi je vais bien. Et donc vu que je vais bien, je pense que c'est une responsabilité citoyenne que je sens en moi, que j'impose absolument pas aux autres, hein, mais que je sens en moi, d'aller vers les autres, de dire bonjour, est-ce que vous savez où se trouve telle rue. Et ça, ben, je pratique mon lien humain et j'offre à la personne qui est en face de moi l'opportunité de pratiquer son lien humain et donc d'avoir peut-être un petit peu moins peur la fois d'après, parce qu'en fait je ne l'ai pas mangé, je ne l'ai pas mordu. Peut-être qu'il a juste dit en fait je ne savais pas où c'était et en fait c'est pas grave.
Tu vis où toi?
Là pour le moment j'habite Liège.
D'accord. Là, le lien humain et la relation est encore différente qu'à Bruxelles ou en Gaume, ou pas pour toi?
En fait, ça fait pas très longtemps que j'habite Liège. Ouais. Donc, je connais pas encore... Enfin, j'ai grandi à Liège, mais seulement le week-end, puisque j'ai grandi ici la semaine.
Ouais.
Mais j'ai pas les repères. Et donc là, pour le moment, je suis beaucoup à Bruxelles, parce que j'ai habité 4 ans à Bruxelles. Et donc, j'ai construit tout mon réseau artistique là-bas. Et mon réseau de copains. Et j'avais pas du tout conscience de ça, parce que mes amis... très très proches, mes amis les plus proches sont explosés en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc j'avais l'impression que où que j'aille, ça changeait rien. Mais en fait, toutes les personnes comme ça qu'on croise et qui en fait sont importantes aussi, sont ailleurs, quoi. Sont quand même forts à Bruxelles. Mais oui, je pense que ça change d'un endroit à l'autre. On va pas se mettre en lien de la même manière. Mais je crois qu'il faut des lieux de rencontre. Ouais. Comme par exemple les cafés, c'est hyper important. Les gares, les trains, les lieux publics, les services publics, c'est des endroits où on brasse des gens différents. On a besoin de lieux où on n'est pas tous les mêmes. Ça, c'est vraiment très important. Mmh. Moi, c'est ça qui m'étouffait à Saint-Gilles. C'est que j'avais l'impression qu'on était tous des teuteux d'artistes. Et à force, ça m'a fatiguée. Maintenant que j'y reviens, je vois toute la diversité qui existe à Saint-Gilles. Hein, mais le fait d'être complètement baigné dedans, à un moment donné, on a des œillères. Et j'avais ces œillères-là. Mais donc, moi, je trouve qu'un endroit qui fait rêver, c'est un endroit où il y a vraiment une diversité, mais une vraie diversité. Autant des gens pas OK que des gens OK, autant des vieux que des jeunes, autant des gens qui viennent d'ailleurs que des gens qui ont grandi et ne sont jamais sortis de là. Voilà, une vraie diversité.
Je vais te laisser parce qu'il faut que tu finisses ton assiette et que tu retournes ta fée. Juste dis-moi ton nom en entier, parce que...
Oui, alors je m'appelle Mathilde Collard.
Ouais. Tu as un nom de compagnie?
Oui, c'est La Petite Mouche.
D'accord. Et il y a un endroit où on peut vous retrouver si on veut vous soutenir, vous financer, suivre vos projets?
Il y a mon site internet. Mon site internet, c'est... Pour le moment, il n'est pas encore hébergé au bon nom de domaine, mais il le sera. Donc je vais donner les deux noms de domaine.
Ok.
Pour le moment, ce qui fonctionne, c'est www.mathildecollard.com. .be.
Collard avec un T ou avec un D?
Avec un D comme Dominique. D'accord. Et avec deux L pour mieux s'envoler.
D'accord.
Et le site qui sera bientôt à jour avec le bon nom de domaine, ce sera www.lapetitemouche.be. Et l'autre nom de domaine fonctionnera toujours.
Ok. Eh bien, écoute, qui sait, peut-être qu'on retrouvera sur Radio Sud l'écoute de ta pièce à un moment donné, si elle est dispo sur Radio-là. En tout cas, on y a accès. Puis on invite les personnes qui veulent découvrir ton travail créatif à se connecter sur ce site qui est géré par l'ACSR, l'Atelier de création sonore radiophonique, et puis qui propose comme ça une programmation de création radio, donc des choses qu'on peut écouter au casque ou sans casque, qui sont purement sonores, qu'on peut écouter en faisant autre chose, où il y a du documentaire, où il y a de la fiction, où il y a des projets jeunes publics réunis sous l'étiquette l'école buissonnière, où il y a des choses courtes, des choses longues, des suggestions de choses par sujet. Si vous êtes branché philo comme Mathilde, vous pouvez avoir ça. Si vous êtes branché écologie, vous pouvez voir ça. Si vous êtes branché relations interpersonnelles, interculturelles, intergénérationnelles ou qui sait, il y a des suggestions et à travers ça, vous pouvez écouter des projets d'émissions de création vraiment composés pendant beaucoup de mois, beaucoup de semaines et souvent sur des formats entre 28 et 52 minutes. Voilà, 53 pour ton cas. Merci d'être venu. Tu vois que tu fais beaucoup de choses finalement. Tu ne fais pas que présenter une scène. Je suis très heureuse de t'avoir rencontré. En plus, c'est une artiste du cru. Et on a peut-être là le début d'une archive autre que celle de Marc-Alexandre sur toi. Et qui nous permettra peut-être dans 10 ans, quand tu te diras « mais j'ai trop nié la tête au compte, mais en fait, je devais faire du compte », et qu'on te retrouvera ici sur scène, se dire « mais évidemment, il fallait que tu sois là ».
J'aimerais beaucoup, mais quand je vois des spectacles de contes, je me dis que ça me donne envie quand même. Mmh. Et voilà, je suis désolée d'avoir autant parlé de moi, j'aurais aimé parler plus du festival.
Je t'ai fait parler de toi, c'était une volonté.
Ah,
on s'occupe de la partie festival, t'inquiète.
En tout cas, super chouette ce festival.
Je t'en prie, bah, bon appétit et à bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci.
Madame André, une réalisation de Mathilde Collard. Madame André regarde par la fenêtre. C'est une grande fenêtre. Une immense baie vitrée qui rafraîchit de lumière la petite figure de Madame André. Le soleil est si puissant qu'il déchire les nuages. Madame André écoute attentivement tous les sons. Elle attend. Elle entend d'une demi-oreille sa radio. Une belle radio en bois. Une radio qui grésille dès que le bouton de réglage des chaînes tourne. L'émission du moment ne l'intéresse guère. Elle veut entendre la troisième oreille ou « Et Dieu dans tout ça ». Ça ne passe que le week-end. La semaine, Madame André patiente. Elle attend le mois de mars, son mois préféré. Madame André reçoit toujours de la visite en mars. Elle n'a jamais compris pourquoi. Elle n'est pas née en mars et ce ne peut être la fête des droits des femmes qui justifie la venue de Raoul, son fils. Raoul, c'est un chic type. Il court partout, il est instituteur. Il aime tellement son métier qu'il ne prend pas de vacances. La semaine, il donne cours dans une petite école de village, le week-end dans un centre de remédiation, et les vacances scolaires, ce sont des stages qu'il se plaît à donner. Le travail. C'est la première valeur de Raoul. C'est pour ça qu'il ne voit jamais sa mère. Il a le temps. Il promet. Il procrastine. Madame André regarde courir son fils avec le sourire. Elle l'observe comme un chat devant une machine à laver. Elle a depuis longtemps arrêté de tenter de le freiner. C'est sa vie. Il est jeune. Il doit profiter, se dit Madame André. Elle a mis sa petite vie entre parenthèses. C'était d'abord de belles parenthèses nuptiales. Puis les parenthèses se sont affaissées. Son mari Gustave est décédé. Et les parenthèses usées sont restées. Le café appelle. Pour se lever, Madame André s'appuie de sa main gauche sur le manche du fauteuil. Madame André est droitière, mais depuis que sa main droite est devenue transparente, depuis que seuls ses contours sont visibles comme un léger dessin au crayon F, elle ne peut plus vraiment s'en servir. La main est devenue translucide avec la mort du mari de Madame André. Du jour au lendemain, elle pouvait regarder au travers. Madame André s'en moquait. Sa main gardait sa couleur, elle pouvait toujours s'en servir normalement. Son fils ne l'a plus vue pendant un an. À partir de la mort de son père, il a voulu voir sa mère exclusivement en mars. Et la main de Madame André reprenait des couleurs exclusivement en mars. La transparence est venue petit à petit, d'année en année. Et maintenant, seuls les contours de la main restent visibles. Ça n'engendre pas vraiment de douleur. Sa main ne peut plus sentir que l'intérieur des choses, les émotions, les caresses, la chaleur. Madame André effleure. Heureusement, sa main gauche est intacte. Madame André reste autonome pour boire son café, faire la vaisselle, ranger ses papiers. Debout, Madame André regarde le fauteuil. Deux renfoncements marquent l'absence de son propre corps. Les creux sont chauds, elle le sait, mais elle y passe quand même la main droite pour vérifier. Madame André marche lentement jusqu'à la cuisine. Elle traîne vaguement les pieds. Dans la cuisine, Madame André tremble. Lever le bras, c'est prendre conscience du poids du bras. Ce poids lourd de toutes ces années, lourd de vide. Dans son mouvement, le poids engendre la maladresse, la vitesse. Sur le petit meuble de bois, Madame André a déjà déposé une tasse. Madame André se réchauffe le visage avec la vapeur. C'est comme une caresse, la vapeur. Une caresse pleine, forte, chaude, humide. Madame André prend son pied. C'est la condensation qui lui plaît le plus. Sur les lunettes. Ça lui rappelle la buée sur les vitres de sa deux chevaux quand elle y faisait l'amour. Juste pour l'odeur, la tasse est amenée sous le nez de Madame André. Ce café. Dans une tasse, il y a 1000 souvenirs. Les terrasses d'été, les rendez-vous entre amis, les matins pressés avant de conduire Raoul à l'école. Madame André, dans son grand passé, était très appréciée, très entourée. Les amis sont morts, malades, ou placé en repos. La famille est loin. Le fils travaille. Le fils travaille, mais pas aujourd'hui. Madame André s'en réjouit. Le café est chaud tiède. Madame André porte la tasse à sa bouche. Le liquide coule doucement sur sa langue. La tasse est douce comme un baiser sur ses lèvres desséchées. Elle ferme les yeux. La tasse sur les genoux, elle profite du goût. Elle visualise tout ce qu'elle pourra demander à Raoul sur sa vie, son travail. Elle pense à elle, elle ne voit que dire. Elle ne veut pas embêter son fils avec la montagne de pensées solitaires qu'il habite, ni avec les souvenirs, ceux qui palpitent comme un cœur frais d'enfant, ceux qui ramènent du sourire quand ils permettent d'oublier le présent, ceux qui dilatent la nostalgie quand ils dessinent des parallèles entre hier et aujourd'hui. Elle ne veut embêter personne. La nuit, Madame André rêve beaucoup. Elle rêve de visites, de fêtes, de danses rock'n'roll. Elle rêve que son mari Gustave la prend par la taille. Elle rêve de balades dans les rues, de rencontres hasardeuses, de discussions avec Raoul sur le sens de la vie. Elle rêve de mains sur l'épaule, de petites caresses dans le dos, de grandes étreintes et d'odeurs humaines. Elle rêve qu'elle est entourée comme avant. Elle rêve que malgré sa peau flétrie, ses ridules et son dentier, rien n'a changé. Elle rêve très fort. Le matin, il ne reste que Fanette, sa plante aux grandes feuilles vertes. Fanette est sa grande amie, la seule qui reste depuis toujours. Madame André parle beaucoup à Fanette. Elle lui caresse les feuilles. Elle sent que ça fait du bien à la transparence de sa main. Fanette est vivante. Fanette ne suffit pas. C'est pour ça que Madame André sort, se balade en rue, serre des mains. Si les contacts, même superficiels, restent réguliers, sa peau reprend parfois un peu de couleur. Raoul va bientôt arriver. Madame André augmente légèrement le volume de sa radio. Quand elle aime la voix du présentateur ou de la présentatrice, Madame André s'y attache fort. C'est puissant, c'est intime et amical. Une fois l'émission terminée, Madame André sent un vide en elle. C'est comme si une main à l'intérieur de son ventre tordait un tissu pour faire un creux. Un tissu humide qui s'essore pour évacuer trois larmes. Ce n'est pas de la tristesse, une émission qui se coupe. C'est un peu comme un oignon qui s'épluche. C'est tout. Ça fait longtemps que Madame André n'a plus écouté la radio aussi attentivement. Elle a été interpellée par la phrase
« Chers auditeurs, restez chez vous, c'est une question de santé publique. Fekemen, nous voudrons des télamangou, vétriment, vrétur, alté... »
Rester chez elle ? Elle ne comprend pas. Elle ne veut pas comprendre. Rester chez elle, c'est être enfermée avec Fanette. Et Fanette, même si elle est douce et accueillante, elle ne bouge pas beaucoup. Madame André réfléchit très vite. Il faut qu'elle donne le grand mône à la bouchère. Demain, c'est mercredi. Elle a besoin des gens de la rue. Elle a besoin du tac-tac lent de ses chaussures sur le pavé. Elle a besoin des sourires, des bras sur son épaule pour l'aider à marcher, alors qu'elle n'a besoin de personne pour avancer. Madame André se débrouille toute seule, comme toujours. Elle en est très fière. Avant, elle refusait l'aide. Aujourd'hui, elle l'accepte pour sentir la chaleur du bras qui se pose sur le sien. Un pas devant l'autre, ça, elle sait toujours faire. Si vous ne la croyez pas, elle risque de vous fusiller furtivement du regard. Madame André a besoin de sortir de chez elle. Même si les vitres sont grandes dans son salon, dans sa cuisine, dans sa chambre, dans sa salle de bain, elle étouffe. Même dans le jardin, elle étouffe. Comment voulez-vous qu'elle tienne sans la rue, les commerçants et le café du vendredi? Comment elle pourrait encore vivre 1000 vies si elle n'allait pas au théâtre tous les mardis? Madame André augmente le volume de sa radio. Elle doit avoir mal entendu.
Les cafés ferment pour quelques semaines ou quelques mois. Nous vous tiendrons au courant des décisions gouvernementales. Nous savons déjà que tous les événements publics des 6 prochains mois sont annulés ou reportés. Chers auditeurs, restez chez vous. Vous recevrez de la nourriture par la poste. Des matelas gonflables vous seront distribués gratuitement pour faciliter les chambres à part. Chers auditeurs, restez chez vous. Les facteurs, pour leur tournée, doivent porter un scaphandre et une tenue de plongée. Deux recommandations ressortent des décisions prises hier soir par la ministre de la Santé. Portez des moufles à l'intérieur des familles et pour votre santé, restez chez vous. Chers auditeurs,
Madame André sourit. Elle est seule. Elle peut rester main nue et garder son lit double. Madame André approche son oreille de sa petite radio. Elle apprend que les mesures sont prises suite à l'apparition soudaine d'un microbe particulièrement nocif, particulièrement contagieux, un microbe mortel pour les vieux et les faibles.
Le microbe ressemble à une robe, c'est pourquoi il est appelé le microbe. La Belgique compte déjà 1253 morts.
Machine à enterrer, tue-moi, enterre pour vous, enterre tout, vos membres, vos jambes, vos bras, le fils, la fille et même papa. Avec la machine à enterrer, tue-moi, mort ou vif, restons chez soi.
Madame André rit. Le microbe ou des extraterrestres, pour elle, c'est la même chose. Elle s'étonne d'être en mars tout à coup, ce devrait être le 1er avril aujourd'hui. Le dos de Madame André est soutenu par le dossier de son fauteuil. Elle rit tellement qu'il en tremble. C'est presque comme si elle et lui riaient ensemble. Son rire est silencieux. Ses yeux coulent de rire. Elle s'essuie les paupières avec son grand mouchoir en tissu qu'elle garde toujours serré dans sa poche en cas de détresse soudaine. Mars, signe du poisson. Mars ou avril, même saison. Saison de soleil doux, de jonquilles et de blagues. Madame André se délecte de chaque nouvelle phrase radiophonique. Elles sont toutes de nouvelles raisons de rire.
Voici la merveilleuse histoire de Vinciane le Jeune, dont la triste existence fut changée par amant postal. Un matin, elle reçut en pièces détachées un si joli amant qu'elle combattit sans crainte toutes ses envies de sortir. Bravo l'agence matrimoniale amant postal. Amant postal existe pour toute orientation sexuelle, toute inscription à amant postal de certifié un consentement total uniquement réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus.
Madame André se calme. Elle déteste entendre le téléphone sonner. Il n'y a que les vendeurs et les vendeuses pour l'appeler. Elle en a assez de se faire arnaquer.
Ama ?
C'est Raoul !
Drape d'y viens.
Et lui dit qu'il ne viendra pas.
Satoanel chez Fatekiol, précombré.
Qu'elle ne doit pas se fâcher contre lui.
T'es sous sa cousine ?
Qu'elle doit comprendre.
Estérac Velmiop.
Que c'est à cause du microbe.
Estéropiminel.
Madame André lui parle du poisson de Mars. Raoul reste très sérieux. Il semble avoir peur.
Ferrac Velmiop. Estéropiniten. La Pellura.
Il promet de la rappeler plus tard.
Abdravien Satoaniel, chefan.
Il insiste pour que sa mère reste cloîtrée chez elle. Madame André en perd sa voix. Son fils raccroche avant qu'elle n'ait pu lui dire au revoir. Madame André reste le bras ballant, le combiné accroché à sa main. Raoul y croit. Raoul n'a jamais été complotiste, est une personne rationnelle, très, trop peut-être. Madame André croit Raoul. Elle s'y voit contrainte. Elle croit au microbe. Il n'y a pas de question à se poser. Elle écoute un peu la radio, mais elle n'arrive pas à se concentrer. Raoul ne viendra pas. Cette pensée envahit beaucoup plus son esprit que toute cette histoire de microbes. Raoul ne viendra pas. Et ça fait un an qu'elle l'attend. Un an qu'elle se réjouit. Un an qu'elle patiente. Un an qu'elle barre les chiffres sur son petit calendrier. Sa gorge se serre très fort, comme un mouchoir fané. Ses dents se coincent les unes contre les autres. Elle oublie de respirer. Madame André devient rouge de rage. Ce n'est pas juste. La visite annuelle de Raoul est devenue l'une de ses principales raisons de vivre. Madame André pose ses deux mains sur le petit meuble du téléphone fixe. Elle regarde vers le bas. Immergée dans ses pensées d'absence, elle ne regarde rien. Elle cherche ses esprits perdus. Son ventre tangue. Elle n'est ni triste ni en colère. Elle palpe avec difficulté la réalité qui lui tombe dessus. Le microbe est une réalité incohérente. Madame André ferme très fort les yeux pour se ressaisir. Elle veut voir les choses retrouver leur place, entendre Raoul lui dire qu'il n'a que quelques minutes de retard. Ses paupières ouvertes guident ses iris jusqu'à son avant-bras droit. Il a disparu. À la différence de sa main droite, il a gardé une forme de consistance. Une consistance de pâtex sèche, dure et molle. il ne sent que le bord des choses. Il est réduit à son sens du toucher. Il n'a plus d'autre utilité. Madame André ne veut pas y croire. Elle plonge en plein déni. De sa main gauche, elle lâche ses souliers. Madame André sort de chez elle pour voir le soleil, entendre résonner le tac-tac de ses chaussures. Sentir les odeurs de Mars lui chatouiller le nez. Madame André veut se distraire. Elle veut oublier la couleur des vieux murs de sa maison. Elle veut voir la forme de la ville pour oublier l'absence de Raoul. Madame André ferme sa porte. Elle se retourne. Ça sent terriblement bon les fleurs. Pour une fois, Madame André n'est pas incommodée par les odeurs de voiture. Elle marche doucement, à petits pas. Les pas de son rythme à elle, parce qu'elle n'en a plus vraiment d'autres à suivre. Madame André voit une femme au loin, une femme toute vêtue de bleu. Sa tête flotte gaiement dans un scaphandre bleu. Madame André s'approche à petits pas contents. Seule, au beau milieu de la rue, c'est l'occasion idéale pour une petite conversation. Madame André prépare son sujet. Elle parlera de Giorgio De Chirico. Elle évoquera les peintures aux grandes rues vides et au beau soleil. Elle commentera le temps de Mars parce que c'est différent. Giorgio peignait le chaud, peignait l'été. Madame André n'a pas le temps de s'approcher.
Respectez la distance de sécurité. Attrapez ses moufles. Enfilez-les. Lancez-moi vos papiers.
Madame André n'a pas ses papiers sur elle, elle ne pensait pas se promener.
Je vais vous raccompagner chez vous.
Madame André connaît le chemin. Madame André s'approche. La perspective d'un bras-dessus-bras-dessous lui plaît. Madame André parle beaucoup. Elle promet à la femme de lui présenter sa plante verte.
Madame, tenez-vous à distance. La santé, c'est quelque chose d'important.
La policière sort un grand brassard de plage de sa poche. Elle ouvre son scaphandre bleu pour laisser passer sa bouche. Elle gonfle le brassard en regardant Madame André droit dans les yeux. Quand le ballon est gonflé, la policière referme son scaphandre et après l'avoir désinfecté au gel hydroalcoolique, elle enfile le brassard autour de son bras.
Vous savez que le microbe tue de plus en plus ? Il faut vous informer, madame, pour nous éviter un travail superflu, pour que nous puissions nous concentrer sur les personnes dissidentes qui sortent volontairement. Il y en a plus qu'on ne croit. Dans certains secteurs, on craint un développement de rassemblements prémédités.
Madame André tâte le plastique, sceptique. Elle accepte le bras parce qu'elle pense au café qu'elles pourront partager une fois arrivées chez elle. Madame André parle toute seule de son fils, de sa vie, de ses routines hebdomadaires. Elle ne pose pas vraiment de questions, elle n'a pas envie de parler du microbe. Elle n'est pas inquiète, elle ne veut pas le devenir. Elle ne veut pas porter de moufles.
Avec les collègues! Pour effectuer la tâche morale qui nous incombe, on risque notre vie quotidiennement. Être dans la rue avec le microbe qui court, c'est dangereux. Vous verrez, madame, vous serez bien mieux chez vous.
Madame André a fait exprès de laisser nonchalamment tomber ses moufles sur les pavés. La policière n'a rien vu. Madame André s'enorgueillit. Arrivée, Madame André veut faire passer la policière devant elle par politesse. C'est la puissance de l'ordre qui l'emporte. Sèchement, Madame André est poussée à l'intérieur. La porte se referme sur elle. Des bruits de marteau battent la porte d'entrée. Madame André est tétanisée. Elle ne veut pas comprendre. Elle comprend malgré elle. Elle se jette de toute sa faiblesse sur la porte, la clé encore dans la main. La porte ne bouge plus.
Madame, prenez soin de vous. Si vous observez des dissidents par la fenêtre, contactez-moi via Facebook. Julie Merlan, vous me trouverez facilement.
Bonne journée, madame. Prenez soin de vous.
Bonne journée, madame. 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 Bonne journée,
madame. Madame André laisse glisser son corps et ses larmes couler. Le désespoir l'emporte sur la rage. Ce n'est pas le 1er avril. Madame André relève sa manche droite pour sentir sa peau contre sa peau, pour se donner un peu de sa propre tendresse, de son propre réconfort. Son coude et son biceps droit se sont évaporés en transparence de patex sèche, dure et molle. Madame André s'appuie doucement de sa main gauche sur le sol. Elle ne peut pas rester par terre. Elle doit faire quelque chose, n'importe quoi, du café, la vaisselle. Madame André doit se distraire. En se levant, sa tête tourne. Elle s'accroche au mur pour ne pas tomber. Elle tient les murs pour sentir une paroi sur sa peau. Madame André se dit qu'une paroi de plâtre froide et inerte, c'est mieux que rien. Il y a seulement une heure d'ici, marcher lui semblait simple. Maintenant, elle a l'impression d'avancer dans un pot de confiture de fraises. Même son cœur s'est mis à battre plus vite. Même son souffle s'est accéléré. Madame André a encore une bonne endurance. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle veut juste s'asseoir. Madame André se laisse choir dans son fauteuil. Elle n'a plus de but. Madame André pense à tous ceux qui sont seuls chez eux. Seuls dans leur appartement étroit, sans jardin. Seuls sans logis. Madame André pense à ceux qui sont ensemble. Ensemble par obligation. Ensemble dans la haine. Ensemble dans le mépris. Dans la jalousie. Dans l'indifférence, Madame André pense aux femmes battues. Aux hommes battus. Aux colocataires crasseux. Aux colocataires pas choisis, aux enfermés ensemble par hasard. Madame André pense à ceux qui ont peur de la solitude, à ceux qui l'apprivoisent à grands coups de whisky, à ceux qui l'oublient dans la nourriture, dans le sommeil, dans les médicaments, avec une balle dans le cœur, une corde au cou. Madame André se rassure. Elle n'est pas seule à être seule quelque part enfermée. Le cas de Madame André n'est pas si grave finalement. Elle vit. Elle se souvient. Le confinement ne durera pas éternellement. Elle s'en convainc maladroitement. Madame André ne sait pas si elle veut caresser Fanette. Elle ne sait pas si elle veut se refaire du café. Elle ne sait pas si elle veut faire un tour dans le jardin. Elle ne sait pas si elle veut téléphoner à Raoul. Elle ne sait pas si elle veut marcher pieds nus sur le tapis gris. Elle ne sait pas si elle veut. Elle ne veut rien. Ça l'embête comme ça la gratte de ne rien vouloir faire. Elle voudrait passer le temps, rien ne l'attire. À quoi bon ? Madame André se sent collée, terriblement engluée dans son fauteuil. Elle regarde nonchalamment sa main droite. La transparence distrait son ennui. Ses yeux restent perdus dans la transparence, perdus dans le rien. Madame André pourrait s'endormir. Elle appuie un peu par hasard, un peu en se forçant sur le bouton de sa radio.
Un seul désodorisant lutte contre le renfermé.
Dehors, dedans.
Un seul désodorisant pour garder vos fenêtres fermées.
Dehors, dedans.
Un seul désodorisant pour oublier l'air frais et vos migraines.
Dehors, dedans.
Un seul désodorisant valable pour votre intérieur. Le célèbre désodorisant.
Dehors, dedans.
Chers auditeurs, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui par téléphone Madame Van Geck, sociologue instantanée.
Oui, bonjour.
Bonjour. Madame Van Geck, pourriez-vous nous expliquer l'impact qu'a le microbe sur notre société ?
Oui, bien sûr. Le monde agricole est particulièrement touché par le microbe. Faute de travailleurs, il n'y a plus assez de viande. Les vaches sont en liberté, plus personne n'est là pour les traire, pour les abattre. Les gens entrent à l'hôpital comme des mouches dans un verre de grenadine. Les écoles sont réquisitionnées pour faire de nouveaux hôpitaux. Les frigos des boucheries servent à conserver les morts.
Madame Van Geck, vous êtes régulièrement en contact avec nos ministres. Selon vous, quelles seront les prochaines décisions ?
Alors, le gouvernement réfléchit très sérieusement à la possibilité d'utiliser les morts entassés dans les boucheries pour nourrir les gens qui ne sont pas malades.
Et qu'en est-il des scientifiques ? À l'heure d'aujourd'hui, où en sont-ils face à la crise sanitaire que nous rencontrons ?
Les scientifiques s'interrogent, parce qu'ils ne savent pas si les morts contiennent encore le microbe ou si le microbe meurt en même temps que les gens qu'il tue.
Madame André s'apprête à éteindre la radio. Elle est pétrifiée. Elle est forcée d'écouter.
Madame Van Geck, avez-vous relevé d'autres problématiques sociétales engendrées par cette crise ?
Oui, les hôpitaux psychiatriques. Les hôpitaux psychiatriques débordent à cause du taux élevé d'hypochondriaques qui y entrent. Les gens ont tellement peur d'attraper le microbe qu'ils se mettent en danger. Ils enrobent leur corps, leur chien, leur chat aussi, de papier cellophane. Si les infirmiers retirent le plastique, les patients entrent en crise. Ils oublient leur nom, ils développent des symptômes identiques à ceux du microbe. Les médecins pensent que c'est une conséquence directe de la solitude infligée par le confinement. Lassés d'être seuls et sains, les gens font tout pour être touchés par n'importe qui. Seule la maladie permet aux gens de sortir de chez eux.
Madame André sourit. Elle aussi voudrait bien avoir le microbe. Elle ne veut pas surcharger les hôpitaux. Elle ne veut pas prendre le risque d'être mangée.
Beaucoup de gens deviennent transparents.
Je vous remercie, Madame Van Geek, pour toutes ces informations importantes. Il nous est nécessaire à tous de mesurer l'ampleur du microbe pour rester chez soi les 4 années à venir.
Madame André ne verra pas Raoul pendant 4 ans.
Pour clôturer, je vais vous poser la petite question rituelle que nous posons à tous nos correspondants téléphoniques. Madame Van Geek, quelle est la couleur de votre tapisserie ?
Madame André sent des picotements envahir son épaule droite. Elle prend sa plante fanette contre elle. Elle se rassoit dans son fauteuil, pétrifiée. Son épaule est transparente, alors elle s'imagine prendre une grosse massue pour éclater la radio, pour que tout redevienne comme avant, pour voir Raoul arriver en courant. 4 ans ! Madame André pense sans raison à son anniversaire. Dans 4 ans, en novembre, elle ne sait pas si elle sera encore vivante. Elle ne sait pas si elle pourra voir Raoul. Depuis combien de temps n'est-il plus venu pour l'anniversaire de sa mère ? Madame André soupire. Quand son fils est né, elle a commencé à accorder une grande importance aux anniversaires. Ils étaient un prétexte pour se rassembler, danser, parler. Interdit. Danser le rock'n'roll dans une grande salle. Interdit. Madame André préparait de bons petits gâteaux salés. C'était un rituel. Un rituel qui concernait plein de gens. Des amis, des copains. Interdit. Un rituel de bougies. Voilà ce qu'il lui faudrait pour sortir du rythme du microbe. Madame André sursaute. Contre la fenêtre qui donne sur la rue, un facteur regarde Madame André avec de grands yeux grossis par le verre du scaphandre qui le protège du microbe. Madame André, serrée contre Fanette, se sent toute vulnérable. Elle s'empresse de déposer la plante à côté de son fauteuil, de lisser son tailleur et son pantalon bien coupé. Quand Madame André ouvre la vitre, une rafale de papier essuie-tout déposée par le facteur sur le rebord de fenêtre s'écroule sur sa tête. Madame André se jette sur le facteur pour l'embrasser. Elle ne comprend pas la masse de papier essuie-tout, c'est l'intention qui compte. Madame André est touchée. Madame André veut tenir la main du facteur.
Madame, je suis content de vous faire plaisir. Mais faut prendre soin de vous. Le microbe est partout.
Le facteur désinfecte son scaphandre et ses moufles au gel hydroalcoolique. Il sourit à Madame André.
Vous savez, ma petite dame, c'est bien normal que je vienne vous voir pour vous apporter de l'essuie-tout. C'est mon métier, la solidarité. Je sais bien que c'est difficile de rester tout seul chez soi. Je vous comprends. Vous voudriez quand même pas tomber malade, dites. Avec ça, vos petits-enfants devraient vous enterrer dans les 2 semaines. Ce serait dommage.
Madame André n'a que Raoul. Elle n'arrive pas à interrompre le facteur pour lui dire qu'elle est seule.
J'espère pour vous que vos petits-enfants n'ont pas encore rapetissé. Aujourd'hui, on doit se méfier de tout le monde.
Madame André lui dit d'entrer par la fenêtre parce que sa porte d'entrée est condamnée.
Oh, ma petite dame, vous n'y pensez pas. Je circule toute la journée d'une maison à l'autre. Et peut-être bien que dans ma tournée, je rencontre des gens contaminés. Imaginez un peu qu'il y ait du microbe sur mes habits.
Madame André voudrait se fâcher contre lui. Elle se fiche de mourir. Elle voudrait un peu de compagnie, quel qu'en soit le prix. Madame André ne se met pas en colère. Elle n'a pas envie de le faire fuir. Madame André s'autorise simplement à sourire et propose une tasse de café au facteur.
Non, merci. Je vais pas prendre le risque de contaminer la porcelaine de vos tasses.
Un gémissement imperceptible sort de la bouche de Madame André parce qu'elle ne peut rien faire.
Je sais bien que c'est pas facile tout ça. Mais vous savez, si on respecte correctement les règles, on s'en sortira plus vite. Vous vous promènerez bientôt dans la rue avec vos petits-enfants. On dirait que ça vous va pas si mal, l'enfermement. Vous avez une bonne mine. On dirait que vous avez joué au cerf-volant toute la matinée.
La gorge de Madame André se noue. Sans même réfléchir à ses actes, Madame André plante ses deux yeux dans le regard du facteur, lui prend le poignet, retire la moufle et dépose la main chaude sur sa main gauche. Chaleur humaine. Le facteur est décontenancé, il n'a pas tout de suite compris les gestes. Peut-être a-t-il lui aussi besoin de tendresse ? Le facteur conscientise le risque et prend peur.
Madame, le microbe est partout.
Le facteur dégage sa main, attrape de sa moufle la main gauche de Madame André. Il l'asperge de gel hydroalcoolique et oblige Madame André à masser. Plus Madame André frotte sa peau devient transparente. Madame André ne s'en rend pas compte. Elle regarde le facteur avec une infinie tristesse. Madame André parle au facteur de Raoul. Elle lui explique qu'aujourd'hui le mois de mars est vide. Elle demande au facteur de revenir la voir le lendemain et le surlendemain.
Ah ça, je peux pas. Je suis désolé. Vous savez, c'est le règlement. La poste ne livre les courses qu'une seule fois par semaine. Je reviens déjà dans 7 jours.
7 jours, pour Madame André, c'est l'éternité.
Sinon, vous avez vu au journal ? Ils disent qu'il y a de plus en plus de gens qui rapetissent. En général, ils ne perdent que quelques centimètres.
Madame André se demande vraiment dans quel monde elle vit.
Dans les cas les plus graves, ils deviennent aussi petits que des mouches. Ils se font manger par des tas de zozios, des chats, des crapauds. Ils se font écraser par leurs bonnes femmes, leurs frangins, par les chaussures, ou pire, on ne les voit pas et on s'assoit dessus. Ils se coincent dans les portes, dans les tiroirs, sous les assiettes. Ils disparaissent parce qu'ils s'enfuient dans les rues désertes ou parce qu'ils s'étouffent dans un pot de confiture. Vous vous rendez compte, ma petite dame ? Il est devenu impossible de compter les morts. On n'arrive même plus à les enterrer convenablement. Il y a une ASBL qui a lancé des récoltes de boîtes d'allumettes. Elles ont une bonne taille pour faire des cercueils aux rapetissés. Moi, j'ai participé à l'action. J'ai fait un don la semaine passée. Si ça vous intéresse, je vous donnerai les références. Vous trouverez ça facilement sur Internet.
Madame André n'a pas Internet.
Enfin, le problème avec les rapetissés, c'est qu'ils contaminent leurs proches, ils passent sous les portes et contaminent l'extérieur.
Madame André se fiche complètement de toutes ces nouvelles informations. Les mesures sont prises pour toutes les personnes qui ont du temps à perdre, la vie devant eux. Madame André est vieille. Elle doit profiter. Le facteur sort 10 tomates, 3 poireaux et 4 oignons de sa poche.
C'est pas tout. Faut bien tenir la semaine, n'est-ce pas ? Paquet de pâtes, riz, pommes de terre.
Madame André adore les pommes de terre.
Pain, fromage, confiture.
Madame André n'a pas faim.
Sauce tomate, sauce soja, moutarde.
Le facteur sort des aliments de sa poche comme Mary Poppins des lampes de son sac.
Haricots rouges, haricots blancs, flageolets.
Tout est emballé dans de grandes enveloppes de cellophane.
Viande.
Madame André interroge le facteur. Elle veut être certaine qu'il ne s'agit pas de viande humaine.
Viande de bœuf, viande de porc, viande blanche.
Madame André se demande comment elle va faire pour manger tout en une semaine.
Savon noir, savon de vaisselle, dentifrice.
Madame André arrête les gestes du facteur. Madame André n'a besoin de rien.
Vous êtes sûre ? D'habitude, les gens ont peur des ruptures de stock. Alors, ils achètent tout ce que je leur présente et ils voudraient même avoir encore plus.
Madame André n'a pas faim. Ça fait des jours qu'elle ne mange pas.
Madame, faut prendre soin de vous. C'est important de manger. Faut prendre des forces, faire de la soupe.
Madame André rit un peu parce que ça lui fait plaisir de voir quelqu'un se tracasser pour elle. Son ventre est vide. Le vide la rend pleine de toute la tendresse qu'elle ne peut plus recevoir.
Vous êtes maigre. Si vous ne mangez pas, vous allez perdre un os.
Madame André va chercher son porte-monnaie pour payer le facteur. S'il ne peut pas entrer, s'il doit continuer sa tournée, il doit partir maintenant. Le facteur attendrit fort Madame André. Elle va finir par le kidnapper. Le facteur prend l'argent.
Merci, ma petite dame. C'était un plaisir de papoter avec vous.
Il se retourne 2-3 fois pour saluer Madame André. Madame André le regarde s'éloigner. Le bras gauche de Madame André se lève pour fermer la fenêtre, mais au bout, il n'y a rien. Un léger trait au crayon F, c'est tout. Madame André approche sa main gauche de ses yeux. C'est une nouvelle transparence tout aussi belle que celle de sa main droite. Un peu moins usée, mais aussi pure. Madame André voit à travers sa main comme si elle regardait à travers sa grande baie vitrée. C'est beau le vide. Madame André compare ses mains, elle les compare de tous côtés. La gauche n'a pas encore l'allure de la droite, parce qu'elle est encore consistante comme de la Patex sèche, dure et molle. Madame André passe ses mains l'une contre l'autre pour discerner les différences. La main droite sent l'intérieur des choses comme si elle en sondait l'âme. Et c'est de la tristesse compacte qu'elle goûte dans son autre paume. La main gauche ressent la surface profonde des choses. Ses perceptions sont multipliées. Sa main elle-même éprouve le besoin de rendre plus forte chaque sensation puisqu'elles sont toutes devenues trop rares pour se suffire à elle-même. Si sa main gauche est elle aussi devenue invisible, c'est parce que le facteur l'a touchée. Sa peau a eu un espoir de tendresse. L'espoir a été détruit par la violence avec laquelle le facteur a retiré sa main. Le corps de Madame André a réagi en propageant la transparence un peu plus loin encore. Ce sont les extrémités qui subissent d'abord l'invisibilité. La couleur et la consistance du toucher doivent privilégier les organes vitaux. Que ferait Madame André avec un cœur transparent? Elle a déjà le cœur si lourd. La transparence ne serait pas assez forte pour le retenir de tomber. Le cœur de Madame André se briserait. Pour se changer les idées, Madame André s'assoit et hisse le grand mône sur ses genoux. Elle parvient même à l'ouvrir grâce à sa bouche. Madame André lit. Elle ne s'arrête plus. La lecture est une échappatoire. La lecture lui permet de tout oublier. La lecture est une drogue. Les pages se succèdent sous les yeux de Madame André, elle ne retient rien. Heureusement qu'elle connaît l'histoire par cœur. Madame André ne pense qu'à ses mains. Elle a peur. Elle respire mal. Très mal. Madame André se noie autant dans son livre que dans ses mains, que dans son souffle. Elle voudrait tout arrêter, jeter le livre au loin, gratter à sang la transparence de ses mains. Elle voudrait prendre un grand bol d'air. Madame André froisse les pages du livre. Dans les pages, elle sent tout le romantisme grimper le long de sa chair. Elle y sent la campagne et l'amour. Elle inhale toutes les sensations du grand monde. Ses mains ne se lassent plus du toucher des pages. Les pages se tournent si vite que le regard de Madame André n'a même plus le temps de se poser sur les lignes. Les mains de Madame André sont-elles réelles? Madame André voudrait écrire dans un carnet pour rationaliser ses sensations. Elle n'a même plus la force de tenir un crayon. Est-ce une projection solitaire? Hypothèse de Raoul. Raoul n'a pas compris. L'année dernière, Raoul avait pris la main droite de Madame André dans les siennes. Il regardait sa mère avec un sérieux immense, un sérieux de mauvais augure. C'était si fort que Madame André avait cru entendre.
Maman, tu vieillis de la tête. J'ai pas la force de m'occuper de toi.
Le regard de Raoul était comme une promesse. Il reviendrait la chercher pour la placer en repos. Madame André s'était fâchée. Elle pouvait encore vivre seule, et bien. Raoul lui avait donné un an pour reprendre ses esprits. Un an, comme par hasard. Un an de patience solitaire, un an à discuter avec la bouchère. Heureusement qu'elle était là avec ses doigts coupés dans le haché. Heureusement que la bouchère souriait fort à Madame André. Heureusement que le théâtre lui rappelait le goût de la vie tous les mardis. Heureusement qu'il y avait la rue pleine et les rires d'enfants. L'isolement, c'est la folie prise en cachet. Raoul ne comprenait rien. Mars, ce n'était pas assez pour éloigner la sénilité d'une mère déjà desséchée. Quelle sénilité ! Madame André a toute sa tête. Elle se souvient de tout, pas un seul trou. Raoul ne changeait pas ses habitudes. Il obligeait Madame André à garder tout son esprit et toute son attente. Quand il avait fini son long discours de justification, quand il avait blanchi son âme avec la même honnêteté que celle de l'homme qui blanchit de l'argent, Raoul avait regardé dans ses mains la petite menotte de sa mère. Une menotte translucide et jaunie. Une menotte de vieille. Ce n'était pas une menotte transparente. Madame André remerciait la chaleur de son fils. Grâce à elle, sa main avait repris des couleurs. Madame André détestait la chaleur de son fils. À cause d'elle, son fils la prenait pour folle. Madame André n'avait rien dit. Elle s'était contentée de sourire, l'œil un peu humide. Et Raoul était parti dans les méandres de la maison de Madame André pour y accomplir un tas de travaux inutiles. Madame André, immobile, savourait la présence de Raoul, en silence. En attendant le goûter avec Raoul, elle préparait une petite table pleine de gaufrettes et de café. Madame André, lasse, regarde Fanette. Elle lui parle longuement. Elle ne lui dit pas grand-chose. Madame André lui parle juste du vide, de l'inutilité et de l'absence. Sa voix remplit l'espace. Madame André n'a pas envie d'écouter la radio. Elle parle. Elle parle. Elle fait des hypothèses toute seule, Madame André. Elle réfléchit beaucoup. Elle réfléchit vite. Madame André se dit qu'elle va mourir. Madame André le sait depuis qu'elle connaît l'existence de la mort, et ça, ça date. Madame André se dit que c'est maintenant. Madame André ne voit pas comment, dans son fauteuil, elle est en pleine forme. Et dehors, le soleil brille comme les cheveux de Raoul le jour où il avait décidé de les décolorer. Madame André voit les arbres bouger. Elle sourit du souvenir de la chevelure jaunie de Raoul. Madame André pourrait mourir maintenant. Elle aurait bon. Madame André n'a jamais été aussi paisible. Raoul n'a plus besoin d'elle puisqu'il n'est pas venu. C'est comme s'il lui avait enfin donné l'autorisation de s'en aller. Madame André ferme les yeux. Elle imagine la mort. Sa vie a été suffisamment belle pour que Madame André puisse se dire que sa mort le sera aussi. Elle sera récompensée d'avoir aimé. Elle sera récompensée d'avoir pris des gens dans ses bras. Ses parents, ses amis, ses amants. Son enfant. Elle imagine Dieu. Elle imagine le paradis comme un grand nid d'aigle, un nid posé sur une falaise. Elle imagine un ciel bleu, si bleu qu'il en devient foncé. Elle imagine des mouches vrombir. Madame André a toujours beaucoup aimé les mouches. Les mouches ont une facilité à prendre la vie du bon côté. Elles frétillent. Elles volent de pomme en sucre et de sucre en pomme. De temps en temps, Madame André aurait une petite discussion avec Dieu. Elle lui demanderait pourquoi le microbe existe. Il lui donnerait des réponses folles. Il lui dirait que le microbe est la fièvre d'une maladie de la nature, que les tempêtes sont ses tremblements, les éruptions volcaniques, ses éternuements, et les tsunamis, ses quintes de toux. Dieu expliquerait que la terre est malade et qu'il a bien fallu qu'elle se défende grâce à sa fièvre, cette armée d'anticorps que représente pour elle le microbe. C'est sans doute parce que les humains se reconnaissent en elle qu'ils sont souvent irrités de voir voler les mouches. Madame André demanderait à Dieu pourquoi Raoul a choisi le mois de mars pour lui rendre visite, alors que tout le monde sait que les fêtes de famille sont en hiver et que Madame André est née en novembre, quand il fait si moche que la tendresse devient une urgence vitale. Dieu ne pourrait pas répondre à Madame André. Comment pourrait-il connaître les explications de toutes les absurdités individuelles et humaines ? Il y a trop de mouches pour un sucre. Il y a trop d'humains pour la terre. Madame André est rassurée d'avoir imaginé la mort. Elle ne veut pas abandonner ce qu'elle aime. Elle ne veut pas abandonner Fanette. Alors, elle pose délicatement ses mains sur les feuilles de sa plante, puis sur la terre, puis sur les feuilles. Fanette est chaude. Fanette est nostalgique. Fanette aime Madame André. Les mains transparentes le sentent. Le cœur de Madame André est trop grand pour tout contenir en lui. Il accélère comme un vieux moteur, avec grand bruit. Madame André a froid. Sa tête tourne très vite. Elle pense à la bouchère, à Raoul. Elle ne veut pas les perdre. Madame André pense à toutes les personnes qu'elle ne peut plus voir, qu'elle ne peut plus toucher pendant 4 ans. Ses pieds disparaissent. Madame André pense à son mari, à ses parents, à son passé décédé. Les jambes de Madame André s'effacent. Elle voit son salon prendre des couleurs qu'elle ne connaissait pas. Elle gémit. Tout chavire. De ses mains qui ne peuvent plus rien attraper, Madame André se tient fermement à son fauteuil. Madame André a l'impression d'être en haut d'une falaise. Madame André a l'impression qu'elle doit se tenir pour ne pas tomber. Sa mâchoire s'affaisse. Ses paupières s'entrouvrent. Madame André voit la falaise. Elle voit un nid d'aigle. Madame André décrispe ses mains. Madame André lâche la falaise. Madame André tombe, elle ne sait où. Madame André choit comme Alice au pays des merveilles. Madame André ne sait pas quand sa chute va s'arrêter. Madame André ne sent plus, elle perd pied, elle perd sens, le goût, l'odorat, la vue, le toucher. Les transparences ne sentent plus que le vide. Le vide peut-il vraiment être touché? Madame André n'entend plus rien. Pas même l'oiseau qui se cogne dans la baie vitrée. Madame André ne pense plus, et la transparence se propage. Elle remonte le long de ses omoplates, le long de sa nuque, derrière ses oreilles. Sa transparence envahit ses cheveux, ses sourcils, sa bouche, son nez, ses joues, ses yeux, son front. Elle glisse sous son menton, sur son cou, sur ses clavicules, le long de sa cage thoracique. La transparence du ventre de Madame André dégouline sur ses hanches, sur son pubis, sur ses fesses, sur ses cuisses. Ses jambes transparentes perdent toute leur matière. Seul reste un fin trait de crayon F. Il se gomme doucement. Des orteils aux mains. Madame André a disparu. Et moi, Fanette. Sans plus personne pour me donner à boire. J'ai soif. Ma terre sèche. Mes feuilles jaunissent doucement. Certaines tombent. D'autres s'effritent. Dehors, les mouches volent toujours. Madame André, un projet sélectionné par Gulliver. Un appel à la création radiophonique soutenu par la RTBF, la radio-télévision suisse romande, la SACD Belgique et France, ainsi que la SCAM Belgique et France, et la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Écriture et montage, Mathilde Collard. Interprétation, Mathieu-Simon Picolet et Mathilde Collard. Prise de son, Pierre Devalet et Mathilde Collard. Mixage, Pierre Devalet. Merci à Pierrick Cholet d'Oliver et Marie Limpac pour l'apport de confiance dans l'écriture. Yuri Didion pour Fanette narratrice et les conseils en matière de dossier artistique. Déborah Barbieri pour l'idée des publicités. Mathieu-Simon Picolet pour l'implication dans le travail de comédien. Lily Jim et Emmanuel de Koning pour l'écoute et les conseils judicieux. Christine Van Acker, Nemo Camus, Anne Versailles et Pierre Devalet pour l'apprentissage sonore.